La conquête du pain, partie 17, l'agriculture. Chapitre 1. On a souvent reproché à l'économie politique de tirer toutes ses déductions de ce principe, certainement faux, que l'unique mobile capable de pousser l'homme à augmenter sa force de production est l'intérêt personnel étroitement compris. Le reproche est parfaitement juste, tellement juste que les époques des grandes découvertes industrielles et des vrais progrès dans l'industrie sont précisément celles où l'on rêvait le bonheur de tous, où l'on s'est le moins préoccupé d'enrichissement personnel. Les grands chercheurs et les grands inventeurs songeaient surtout à l'affranchissement de l'humanité. Et si les Watt, les Stevenson, les Jacquard, etc., avaient seulement pu prévoir à quel état de misère leur nuit blanche amènerait le travailleur, ils auraient probablement brûlé leur devis, brisé leur modèle. Un autre principe, qui pénètre aussi l'économie politique, est tout aussi faux. C'est l'admission tacite, commune à presque tous les économistes, que, s'il y a souvent surproduction dans certaines branches, une société n'aura néanmoins jamais assez de produits pour satisfaire aux besoins de tous, et que, par conséquent, il n'arrivera jamais un moment où personne ne sera obligé de vendre sa force de travail en échange d'un salaire. Cette admission tacite se retrouve à la base de toutes les théories, de toutes les prétendues lois enseignées par les économistes. Et cependant, il est certain que du jour où une agglomération civilisée quelconque se demanderait quels sont les besoins de tous et les moyens d'y satisfaire, elle s'apercevrait qu'elle possède déjà, dans l'industrie comme dans l'agriculture, de quoi pourvoir largement à tous les besoins, à la condition de savoir appliquer ses moyens à la satisfaction de besoins réels. Que cela soit vrai pour l'industrie, nul ne le peut contester. Il suffit en effet d'étudier dans les grands établissements industriels les procédés déjà en vigueur pour extraire le charbon et les minerais, obtenir l'acier et le façonner, fabriquer ce qui sert aux vêtements, etc., pour s'apercevoir qu'en ce qui concerne les produits de nos manufactures, nos usines, nos mines, nul doute n'est possible à ce sujet. Nous pourrions déjà quadrupler notre production et encore économiser sur notre travail. Mais nous allons plus loin. Nous affirmons que l'agriculture est dans le même cas que l'industrie. Le laboureur, comme le manufacturier, possède déjà les moyens de quadrupler, sinon de décupler sa production, et il pourra le faire dès qu'il en sentira le besoin et procédera à l'organisation sociétaire du travail en lieu et place de l'organisation capitaliste. Chaque fois que l'on parle d'agriculture, on s'imagine toujours le paysan courbé sur la charrue, jetant au hasard dans le sol un blé mal trié et attendant avec angoisse ce que la saison, bonne ou mauvaise, lui rapportera. On voit une famille travaillant du matin au soir et n'ayant pour toute récompense qu'un grabat, du pain sec et une aigre boisson. On voit, en un mot, la bête fauve de la bruyère. Là, pour cet homme, assujetti à la misère, on parle tout au plus d'alléger l'impôt ou la rente. Mais on n'ose même pas s'imaginer un cultivateur redressé, enfin, prenant des loisirs et produisant en peu d'heures par jour de quoi nourrir, non seulement sa famille, mais 100 hommes en plus, au bas mot. Au plus fort de leur rêve d'avenir, les socialistes n'osent aller au-delà de la grande culture américaine, qui, au fond, n'est que l'enfance de l'art. L'agriculteur d'aujourd'hui à des idées plus larges, des conceptions bien autrement grandioses. Il ne demande qu'une fraction d'hectare pour faire croître toute la nourriture végétale d'une famille. Pour nourrir 25 bêtes à cornes, il ne lui faut pas plus d'espace qu'autrefois pour en nourrir une seule. Il veut en arriver à faire le sol, à défier les saisons et le climat, à chauffer l'air et la terre autour de la jeune plante, à produire, en un mot, sur un hectare, ce que l'on ne réussissait pas autrefois à récolter sur 50 hectares, et cela sans se fatiguer à outrance, en réduisant beaucoup la somme totale du travail antérieur. Il prétend qu'on pourra produire amplement de quoi nourrir tout le monde en ne donnant à la culture des champs que juste ce que chacun peut lui donner avec plaisir, avec joie. Voilà la tendance actuelle de l'agriculture. Tandis que les garants, guidés par Liebig, créateur de la théorie chimique de l'agriculture, faisaient très souvent fausse route dans leur engouement de théoricien, des cultivateurs illettrés ont ouvert une voie nouvelle de prospérité à l'humanité. Des maraîchers de Paris, de Troyes, de Rouen, des jardiniers anglais, des fermiers flamands, des cultivateurs de Jersey, de Guernesey et des îles Scilly nous ont ouvert des horizons si larges que l'œil hésite à les embrasser. Tandis qu'une famille de paysans devait avoir au moins 7 ou 8 hectares pour vivre des produits du sol, et on sait comment vivent les paysans, on ne peut même plus dire quelle est l'étendue minimum de terrain nécessaire pour donner à une famille tout ce que l'on peut retirer de la terre, le nécessaire et le luxe, en la cultivant selon les procédés de la culture intensive. Chaque jour rétrécit cette limite. Et si on nous demandait quel est le nombre de personnes qui peuvent vivre richement sur l'espace d'une lieue carrée, sans rien importer des produits agricoles du dehors, il nous serait difficile de répondre à cette question. Ce nombre grandit rapidement en proportion des progrès de l'agriculture. Il y a 10 ans, on pouvait déjà affirmer qu'une population de 100 millions vivrait très bien des produits du sol français sans rien importer. Mais aujourd'hui, en voyant les progrès accomplis tout récemment, aussi bien en France qu'en Angleterre, et en contemplant les horizons nouveaux qui s'ouvrent devant nous, nous dirons qu'en cultivant la terre, comme on la cultive déjà en beaucoup d'endroits, même sur des sols pauvres, 100 millions d'habitants sur les 50 millions d'hectares du sol français seraient encore une très faible proportion de ce que ce sol pourrait nourrir. La population s'accroîtra d'autant que l'homme s'avisera de demander plus à la terre. En tout cas, nous allons le voir, on peut considérer comme absolument démontré que si Paris et les deux départements de Seine et de Seine-et-Oise s'organisaient demain en commune anarchiste, dans laquelle tous travailleraient de leurs bras, et si l'univers entier refusait de leur envoyer un seul setier de froment, une seule tête de bétail, un seul panier de fruits, et ne leur laissait que le territoire des deux départements, ils pourraient produire eux-mêmes non seulement le blé, la viande et les légumes nécessaires, mais aussi tous les fruits de luxe en des quantités suffisantes pour la population urbaine et rurale. Et nous affirmerons, en outre, que la dépense totale de travail humain serait beaucoup moindre que la dépense actuelle employée à nourrir cette population avec du blé récolté en Auvergne ou en Russie, des légumes produits par la grande culture un peu partout et des fruits mûris dans le Midi. Il est évident, d'ailleurs, que nous ne prétendons nullement qu'il faille supprimer tous les échanges et que chaque région doive s'appliquer à produire précisément ce qui ne croît sous son climat que par une culture plus ou moins artificielle. mais nous tenons à faire ressortir que la théorie des échanges, telle qu'on la professe aujourd'hui, est singulièrement exagérée, que beaucoup sont inutiles ou même nuisibles. Nous maintenons, en outre, que l'on n'a jamais tenu compte du labeur employé par les vignerons du Midi pour cultiver la vigne, ni par les paysans russes ou hongrois pour cultiver le blé, si fertiles que soient leurs prairies et leurs champs. Avec leurs procédés actuels de culture extensive, ils se donnent infiniment plus de mal qu'il n'en faudrait pour obtenir les mêmes produits par la culture intensive, même sous des climats infiniment moins cléments et sur un sol naturellement moins riche. Chapitre 2. Il nous serait impossible de citer ici la masse des faits sur lesquels nous basons nos assertions. Nous sommes donc forcés de renvoyer nos lecteurs, pour plus amples renseignements, aux articles que nous avons publiés en anglais. Quant aux habitants des grandes villes, qui n'ont encore une idée réelle de ce que peut être l'agriculture, nous leur conseillons de parcourir à pied les campagnes environnantes et d'en étudier la culture. Qu'ils observent, qu'ils causent avec les maraîchers, et tout un monde nouveau s'ouvrira devant eux. Ils pourront ainsi entrevoir ce que sera la culture européenne du XXe siècle. Ils comprendront de quelle force sera armée la révolution sociale quand on connaîtra le secret de prendre à la terre tout ce qu'on lui demandera. Quelques faits suffiront pour montrer que nos affirmations ne sont nullement exagérées. Nous tenons seulement à les faire précéder d'une remarque générale. On sait dans quelles conditions misérables se trouve l'agriculture en Europe. Si le cultivateur du sol n'est pas dévalisé par le propriétaire foncier, il l'est par l'État. Si l'État le rançonne modestement, le prêteur d'argent qui l'a servi au moyen de billets à ordre en fait bientôt le simple tenancier d'un sol appartenant en réalité à une compagnie financière. Le propriétaire, l'État et le banquier dévalisent donc le cultivateur par la rente, l'impôt et l'intérêt. La somme en varie dans chaque pays, mais jamais elle ne tombe au-dessous du quart, très souvent de la moitié du produit brut. En France, l'agriculture paie à l'État 44% du produit brut. Il y a plus. La part du propriétaire et celle de l'État vont toujours croissant. Sitôt que, par des prodiges de labeur, d'invention ou d'initiative, le cultivateur a obtenu de plus fortes récoltes, le tribut qu'il devra au propriétaire, à l'État ou au banquier augmentera en proportion. S'il double le nombre d'hectolitres récoltés sur l'hectare, la rente doublera, et par conséquent les impôts, que l'État s'empressera d'élever encore si les prix montent, et ainsi de suite. Bref, partout le cultivateur du sol travaille 12 à 16 heures par jour. Partout, ces trois vautours lui enlèvent tout ce qu'il pourrait mettre de côté. Partout, il le dépouille de ce qui pourrait améliorer sa culture. Voilà pourquoi l'agriculture reste stationnaire. Ce sera seulement en des conditions tout à fait exceptionnelles, par suite d'une querelle entre les trois vampires, par un effort d'intelligence ou par un surcroît de travail, qu'il parviendra à faire un pas en avant. Et encore, nous n'avons rien dit du tribut que chaque cultivateur paie à l'industriel. Chaque machine, chaque bêche, chaque tonneau d'engrais chimiques lui est vendu 3 ou 4 fois ce qu'il coûte. N'oublions pas non plus l'intermédiaire qui prélève la part du lion sur les produits du sol. Voilà pourquoi, durant tout ce siècle d'inventions et de progrès, l'agriculture ne s'est perfectionnée que sur des espaces très restreints, occasionnellement et par soubresaut. Heureusement, il y a toujours eu de petites enclaves, négligées pendant quelque temps par les vautours. Et là, nous apprenons ce que l'agriculture intensive peut donner à l'humanité. Citons-en quelques exemples. Dans les prairies de l'Amérique, qui d'ailleurs ne donnent que de maigres récoltes de 7 à 12 hectolitres à l'hectare, et encore des sécheresses périodiques nuisent-elles souvent aux récoltes, 500 hommes, travaillant seulement pendant 8 mois de l'année, produisent la nourriture annuelle de 50 000 personnes. Le résultat s'obtient ici par une forte économie de travail. Sur ces vastes plaines que l'œil ne peut embrasser, le labour, la récolte, le battage sont organisés presque militairement. Point de va-et-vient inutile, point de perte de temps. Tout se fait avec l'exactitude d'une parade. C'est la grande culture, la culture extensive, celle qui prend le sol tel qu'il sort des mains de la nature sans chercher à l'améliorer. Quand il aura donné tout ce qu'il peut, on l'abandonnera. On ira chercher ailleurs un sol vierge pour l'épuiser à son tour. Mais il y a aussi la culture intensive, à laquelle les machines viennent et viendront toujours plus en aide. Elle vise surtout à bien cultiver un espace limité, à le fumer et l'amender, à concentrer le travail et obtenir le plus grand rendement possible. Ce genre de culture s'étend chaque année et, tandis qu'on se contente d'une récolte moyenne de 10 à 12 hectolitres dans la plus grande culture du Midi de la France et sur les terres fertiles de l'Ouest américain, on récolte régulièrement 36, même jusqu'à 50, quelquefois 56 hectolitres dans le nord de la France. La consommation annuelle d'un homme s'obtient ainsi sur la surface d'un 12e d'hectare. Et plus on donne d'intensité à la culture, moins on dépense de travail pour obtenir l'hectolitre de froment. La machine remplace l'homme pour les travaux préparatoires, et l'on fait, une fois pour toutes, telle amélioration du sol, comme le drainage, ou l'épierrage, qui permet de doubler les récoltes à l'avenir. Quelquefois, rien qu'un labour profond permet d'obtenir d'un sol médiocre d'excellentes récoltes d'année en année, sans jamais le fumer. On l'a fait pendant 20 ans à Rothamsted, près de Londres. Ne faisons pas de roman agricole. Arrêtons-nous à cette récolte de 40 hectolitres qui ne demande pas un sol exceptionnel, mais simplement une culture rationnelle, et voyons ce qu'elle signifie. Les 3 600 000 individus qui habitent les deux départements de Seine et de Seine-et-Oise consomment par année pour leur nourriture un peu moins de 8 millions d'hectolitres de céréales, de blé principalement. Dans notre hypothèse, il leur faudrait donc cultiver, pour obtenir cette récolte, 200 000 hectares sur les 610 000 qu'ils possèdent. Il est évident qu'ils ne les cultiveront pas à la bêche. Cela demanderait trop de temps, 240 journées de 5 heures par hectare. Ils amélioreraient plutôt le sol une fois pour toutes. Ils draineraient ce qui doit être drainé, aplaniraient ce qu'il faut aplanir, épierreraient le sol, du temps dépensé à ce travail préparatoire, 5 millions de journées de 5 heures, soit une moyenne de 25 journées par hectare. Ensuite, on laboureraient au défonceur à vapeur, ce qui ferait 4 journées par hectare, et on donnerait encore 4 journées pour labourer à la charrue double. On ne prendrait pas la semence au hasard, mais on la trierait à l'aide de trieuses à vapeur. On ne jetterait pas la semence aux 4 vents, mais on s'aimerait en ligne. Et, avec tout cela, on n'aurait pas encore dépensé 25 journées de 5 heures par hectare si le travail se fait en de bonnes conditions. Mais que pendant 3 ou 4 ans, on donne 10 millions de journées à une bonne culture, on pourra plus tard avoir des récoltes de 40 et de 50 hectolitres en n'y mettant plus que la moitié du temps. On aura donc dépensé que 15 millions de journées pour donner le pain à cette population de 3 600 000 habitants. Et tous les travaux seraient tels que chacun les pourrait faire sans avoir pour cela des muscles d'acier, ni sans avoir jamais travaillé la terre auparavant. L'initiative et la distribution générale des travaux viendraient de ceux qui savent ce que la terre demande. Quant au travail même, il n'y a ni Parisien ni Parisienne si affaibli qu'il ne soit capable, après quelques heures d'apprentissage, de surveiller les machines ou de contribuer, chacun pour sa part, au travail agraire. Eh bien, quand on y pense que, dans le chaos actuel, il y a, sans compter les désœuvrés de la haute pègre, près de 100 000 hommes qui chôment dans leurs divers métiers, on voit que la force perdue dans notre organisation actuelle suffirait seule pour donner, par une culture rationnelle, le pain nécessaire aux 3 ou 4 millions d'habitants des deux départements. Nous le répétons, ce n'est pas un roman. Nous n'avons même pas parlé de la culture vraiment intensive qui donne des résultats bien plus surprenants. Nous n'avons pas tablé sur ce blé obtenu il y a 3 ans par M. Hallett et dont un seul grain, repiqué, produisit une touffe portant plus de 10 000 graines, ce qui permettrait, au besoin, de récolter tout le blé pour une famille de 5 personnes sur l'espace d'une centaine de mètres carrés. Nous n'avons cité au contraire que ce qui se fait déjà par de nombreux fermiers en France, en Angleterre, en Belgique, dans les Flandres, etc. Et ce qui pourrait se faire dès demain, avec l'expérience et le savoir déjà acquis, par la pratique en grand. Mais sans la révolution, cela ne se fera ni demain, ni après-demain, parce que les détenteurs du sol et du capital n'y ont aucun intérêt, et parce que les paysans, qui trouveraient bénéfice, n'ont ni le savoir, ni l'argent, ni le temps de se procurer les avances nécessaires. La société actuelle n'en est pas encore là. Mais que les Parisiens proclament la Commune anarchiste, et ils y viendront forcément, parce qu'ils n'auront pas la bêtise de continuer à faire de la bimbloterie de luxe, que Vienne, Varsovie et Berlin font déjà tout aussi bien, et ne s'exposeront pas à rester sans pain. D'ailleurs, le travail agricole, aidé de machines, deviendrait bientôt la plus attrayante et la plus joyeuse de toutes les occupations. Assez de joaillerie, assez d'habillement de poupées. On irait se retremper dans le travail des champs, y chercher la vigueur, les impressions de la nature, la joie de vivre que l'on avait oublié dans les sombres ateliers des faubourgs. Au Moyen-Âge, les pâturages alpins, mieux que les arquebuses, avaient permis aux Suisses de s'affranchir des seigneurs et des rois. L'agriculture moderne permettra à la cité révoltée de s'affranchir des bourgeoisies coalisées. Chapitre 3. Nous avons vu comment les 3,5 millions d'habitants des deux départements, Seine et Seine-et-Oise, trouveraient amplement le pain nécessaire rien qu'en cultivant un tiers de leur territoire. Passons maintenant au bétail. Les Anglais, qui mangent beaucoup de viande, en consomment une quantité moyenne un peu moindre de 100 kg par personne adulte et par an. en supposant que toutes les viandes consommées soient du bœuf, cela fait un peu moins d'un tiers de bœuf. Un bœuf par an pour 5 personnes, y compris les enfants, est déjà une ration suffisante. Pour 3,5 millions d'habitants, cela ferait une consommation annuelle de 700 000 têtes de bétail. Eh bien, aujourd'hui, avec le système de pacage, il faut avoir au bas mot 2 millions d'hectares pour nourrir 660 000 têtes de bétail. Cependant, avec des prairies très modestement arrosées au moyen d'eau de source, comme on en a créé récemment sur des milliers d'hectares dans le sud-ouest de la France, 500 000 hectares suffisent déjà. Mais si l'on pratique la culture intensive, en faisant pousser la betterave comme nourriture, il ne faut plus qu'un quart de cet espace, c'est-à-dire 125 000 hectares. Et quand on a recours au maïs et que l'on fait de l'ensilage comme les Arabes, on obtient tout le fourrage nécessaire sur une surface de 88 000 hectares. Aux environs de Milan, où l'on utilise les eaux d'égout pour irriguer les prairies, on obtient sur une surface de 9 000 hectares arrosés la nourriture de 4 à 6 bêtes à cornes par hectare. Et sur quelques lopins favorisés, on a récolté jusqu'à 15 tonnes de foin sec à l'hectare, ce qui fait la nourriture annuelle de 9 vaches à lait. 3 hectares par tête de bétail en pacage et 9 bœufs ou vaches sur 1 hectare, voilà les extrêmes de l'agriculture moderne. Dans l'île de Guernesey, sur un total de 4 000 hectares utilisés, près de la moitié, 1 900 hectares, sont couverts de céréales et de potagers, et 2 100 seulement restent pour les prés. Sur 2 100 hectares, on nourrit 1 480 chevaux, 7 260 têtes de bétail, 900 moutons et 4 200 cochons, ce qui fait plus de 3 têtes de bétail par hectare, sans compter les chevaux, les moutons et les porcs. Inutile d'ajouter que la fertilité du sol est faite par les amendements de varech et d'engrais chimiques. Revenant à nos 3,5 millions d'habitants de l'agglomération de Paris, on voit que la surface nécessaire à l'élève du bétail descend de 2 millions d'hectares à 88 000. Eh bien, ne nous arrêtons pas aux chiffres les plus bas. Prenons ceux de la culture intensive ordinaire. Ajoutons largement le terrain nécessaire au menu bétail, qui doit remplacer une partie des bêtes à cornes, et donnons 160 000 hectares à l'élève du bétail, 200 000 si l'on veut, sur les 410 000 hectares qui nous restent, après avoir pourvu au pain nécessaire à la population. Soyons généreux et mettons 5 millions de journées pour mettre cet espace en production. Donc, après avoir employé dans le courant de l'année 20 millions de journées de travail, dont la moitié pour des améliorations permanentes. Nous aurons le pain et la viande assurés, non compris toute la viande supplémentaire que l'on peut obtenir sous forme de volaille, de cochons engraissés, de lapins, etc. Sans compter qu'une population pourvue d'excellents légumes et de fruits consommera beaucoup moins de viande que l'anglais, qui supplée par la nourriture animale à la pauvreté de son menu végétal. Cependant, 20 millions de journées de 5 heures, combien cela fait-il par habitant? Bien peu de choses en réalité. Une population de 3,5 millions doit avoir, pour le moins, 1 200 000 hommes adultes capables de travailler et autant de femmes. Eh bien, pour assurer le pain et la viande à tous, il ne faudrait donc pas plus de 17 journées de travail par an pour les hommes seulement. Ajoutez encore 3 millions de journées pour avoir le lait. Ajoutez encore autant. Le tout n'atteint pas 25 journées de 5 heures. Simple affaire de s'amuser un peu dans les champs pour avoir ces trois produits principaux, pain, viande et lait. Ces trois produits qui, après le logement, font la préoccupation principale quotidienne des 9/10 de l'humanité. Et cependant, ne nous lassons pas de le répéter, nous n'avons pas fait du roman. Nous avons raconté ce qui est, ce qui se fait déjà, sur de vastes proportions, ce qui a obtenu la sanction de l'expérience en grand. L'agriculture pourrait dès demain être réorganisée si les lois de la propriété et l'ignorance générale ne s'y opposaient. Le jour où Paris aura compris que savoir ce qu'on mange et comment on le produit est une question d'intérêt public, le jour où tout le monde aura compris que cette question est infiniment plus importante que les débats du Parlement ou du Conseil municipal, ce jour-là, la révolution sera faite. Paris saisira les terres des deux départements et les cultivera. Et alors, après avoir donné pendant toute sa vie un tiers de son existence pour acheter une nourriture insuffisante et mauvaise, le Parisien la produira lui-même, sous ses murs, dans l'enclos des forts, s'ils existent encore, en quelques heures d'un travail sain et attrayant. Et maintenant, passons aux fruits et aux légumes. Sortons de Paris et allons visiter un de ces établissements de la culture maraîchère qui font, à quelques kilomètres des académies, des prodiges ignorés par les savants économistes. Arrêtons-nous, par exemple, chez M. Ponce, l'auteur d'un ouvrage sur la culture maraîchère, qui ne fait pas secret de ce que la terre lui rapporte et qu'il l'a raconté tout au long. M. Ponce, et surtout ses ouvriers, travaillent comme des nègres. Ils sont 8 à cultiver un peu plus d'un hectare, 11/10. Ils travaillent certainement 12 et 15 heures par jour, c'est-à-dire 3 fois plus qu'il ne faut. Il serait 24 qu'il ne serait pas trop. À quoi M. Ponce nous répondra probablement que, puisqu'il paie la somme effrayante de 2 500 francs par an de rente et d'impôts pour ses 11 000 m² de terrain et 2 500 francs pour le fumier acheté dans les casernes, il est forcé de faire de l'exploitation. Exploiter, j'exploite à mon tour, serait probablement sa réponse. Son installation lui a coûté 30 000 francs, sur lesquels, certainement, plus de la moitié en tribut au baron fainéant de l'industrie. En somme, son installation ne représente pas plus de 3 000 journées de travail, probablement beaucoup moins. Mais voyons ses récoltes. 10 000 kilos de carottes, 10 000 kilos d'oignons, de radis et autres petits légumes, 6 000 têtes de choux, 3 000 choux-fleurs, 5 000 paniers de tomates, 5 000 douzaines de fruits choisis, 154 000 salades. Bref, un total de 125 000 kilos de légumes et de fruits sur 1 hectare et 1/10, sur 110 mètres de long et 100 mètres de large. Ce qui fait plus de 110 tonnes de légumes à l'hectare. Mais un homme ne mange pas plus de 300 kilos de légumes et de fruits par an, et l'hectare d'un maraîcher donne assez de légumes et de fruits pour servir richement la table de 350 adultes durant toute l'année. Ainsi, 24 personnes, s'employant toute l'année à cultiver 1 hectare de terre, mais n'y donnant plus que 5 heures par jour, produirait assez de légumes et de fruits pour 350 adultes, ce qui équivaut au moins à 500 individus. Autrement dit, en cultivant, comme M. Pons, et ses résultats sont déjà dépassés, 350 adultes devraient donner chacun un peu plus de 100 heures par année, 103, pour procurer les légumes et les fruits nécessaires à 500 personnes. Remarquons qu'une production pareille n'est pas l'exception. Elle se fait sous les murs de Paris, sur une surface de 900 hectares par 5000 maraîchers. Seulement, ces maraîchers sont réduits à l'état de bêtes de somme, pour payer une rente moyenne de 2000 francs par hectare. Mais ces faits, que chacun peut vérifier, ne prouvent-ils pas que 7000 hectares, sur les 210 000 qui nous restent, suffiraient pour donner tous les légumes possibles, ainsi qu'une bonne provision de fruits aux 3,5 millions d'habitants de nos deux départements? Quant à la quantité de travail nécessaire pour produire ces fruits et ces légumes, elle atteindrait le chiffre de 50 millions de journées de 5 heures, une cinquantaine de journées par adulte mâle, si nous prenions, pour mesure, le travail des maraîchers. Mais nous allons voir tout à l'heure cette quantité se réduire si l'on a recours aux procédés déjà en vogue à Jersey et à Guernsey. Nous rappellerons seulement que le maraîcher n'est forcé de tant travailler que parce qu'il produit surtout des primeurs, dont le prix élevé sert à payer des baux fabuleux, et que ces procédés mêmes réclament plus de travail qu'il n'en faut en réalité. N'ayant pas les moyens de faire de fortes dépenses pour son installation, obligé de payer très cher le verre, le bois, le fer et la houille, il a demandé au fumier la chaleur artificielle que l'on peut avoir à moins de frais par la houille et la serre chaude.